Session Padel.
Allez, c'est parti. Salut à tous. J'espère que vous êtes au top de votre forme pour ce nouvel épisode de Session Padel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mois. Et voici le magnifique programme qui vous attend. On va parler des top pairs qui bougent et notamment le divorce entre Galan et LeBron. Ça y est. On a la nomination des capitaines des équipes de France jeunes et on en parlera dans la piste à fédé. Avec notre prof, on va progresser, on va essayer de progresser au niveau de la Chiquita, ce magnifique coup tout en touché. Et on finira comme d'habitude par la troisième mi-temps où notre invité répondra à toutes vos questions.
Session Padel.
Et ce mois-ci, une paire d'âmes, une paire de très très haut niveau. Elle est composée d'Alexia Dechaume, responsable de la formation des jeunes. Salut Alexia.
Bonjour à toutes les deux. Salut Émilie.
Comment ça va? T'as la forme?
Je suis en pleine forme, tout va bien.
T'es au top. Aujourd'hui, tu vas être associée à une grande joueuse qui a été aux alentours de la 60e place mondiale, qui est consultante padel sur Canal, ambassadrice Bull Padel, qui a monté sa chaîne YouTube 1-1 Padel. Et qui suis-je? Je suis Laura Clerc. Salut Laura.
Salut Émilie, salut Alexia.
Comment ça va? T'as la forme?
Ouais, carrément. Écoute, j'ai appris à te connaître un peu plus sur la pista. Maintenant, on va voir en podcast ce que ça donne.
Ouais, c'est pour ça qu'en binôme, je te prête Alexia. Certes, en termes de niveau, en termes d'expérience, c'est bien meilleur du côté d'Alexia. Donc, je suis sûre que tu vas pas y perdre au niveau de la qualité. Plus sérieusement, tu as pris ta retraite, on va dire, des pistes de façon professionnelle. Aujourd'hui, tu es consultante sur Canal. Tu as plein d'activités, notamment avec Bull Padel. Voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle vie? J'ai envie de dire toujours dans le padel, mais un petit peu moins sur la piste en tant que joueuse professionnelle.
Bah, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance hein, quand même dans ma reconversion. Ça s'est fait très très vite avec une carrière quand même assez courte hein, parce que je suis devenue pro à 26 ans en 2016. Et puis c'est vrai que j'ai arrêté en 2020. J'avais vécu une expérience incroyable et je savais que c'était un peu le moment de retourner en France parce qu'il se passe plein de choses. Et puis j'ai eu la chance d'être intégrée dans beaucoup de projets. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être sur Canal l'expertise un peu tactique parce que moi j'ai aucune facilité technique contrairement à vous les deux grandes joueuses de tennis que vous avez été, mais c'est vrai que l'aspect tactique du padel ça m'a toujours énormément intéressée, donc j'essaie via Canal, via YouTube, via les événements aussi que je fais avec Bull Padel de transmettre un peu la culture padel telle que je l'ai apprise en Espagne, donc c'est ça qui me plaît le plus aujourd'hui.
Alexia, j'ai eu la chance de jouer avec Laura. Je trouve qu'elle minimise aussi toutes ses qualités, tu vois, là, avec l'intervention au niveau de la technique. Toi qui l'as suivie, justement, en tant que joueuse, qu'est-ce que tu as pu admirer, justement, chez Laura quand elle était sur les pistes en tant que pro?
Ouais, c'est vrai, c'est étonnant ce que tu dis, Laura, parce que moi, quand je regarde les joueuses, je trouve que techniquement parlant, t'es un modèle. C'est vrai que je regarde pas mal de vidéos, d'ailleurs, que tu passes quand tu fais un peu tes interventions et tes démonstrations. Et je trouve que techniquement, en tout cas, moi, ça me parle et je trouve que t'es super techniquement. Donc, c'est vrai que nous aussi, ça nous plaît, hein, Émilie, le côté tactique. Je crois que le padel est un jeu extraordinaire de ce côté-là. Avec une palette de coups à jouer, c'est pour ça qu'on aime aussi ce sport, toutes les trois d'ailleurs.
Laura, quand tu fais tes pastilles au niveau technique, t'es un peu le coach. Comment est-ce que tu les prépares? Comment tu les travailles en amont?
Disons que moi, au début, quand j'ai commencé le paddle, c'est vrai qu'il y avait quasiment aucun prof en France. Donc, je suis passée beaucoup par de la vidéo YouTube, par des tutos. Je faisais des petits stages en Espagne, comme vous avez pu faire aussi, pour essayer d'engranger de l'information, puis après revenir en France et essayer de le mettre en application. Donc j'essaie de faire un contenu que j'ai aimé consommer ou que j'aime toujours consommer aujourd'hui. Et c'est vrai que j'essaie de voir les coups les plus compliqués, là où il y a le plus de mystère. C'est vrai, la descente de vitre en général, la vibora, enfin c'est toujours des coups techniques qui sont un peu mystérieux, on va dire. Donc j'essaie un peu de lever le voile sur ces coups-là en expliquant le plus simplement possible, sachant que voilà, ce que je disais, c'est pas que techniquement aujourd'hui je n'arriverai à faire du tout, c'est juste que j'ai dû apprendre vraiment pas par pas, vraiment avec peut-être mon cerveau d'ingénieur hyper structuré à faire le coup de A à Z, et du coup c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer, en tout cas essayer de vulgariser un max pour que ce soit accessible.
Et en tout cas, c'est très accessible et c'est super agréable à consommer. Allez, madame, mesdames, je vous propose de rentrer dans la première rubrique et c'est Top News.
Top News.
Alors là, il y a des paires qui bougent. Ceci étant, ça met quand même du grain à moudre. Du coup, il y a beaucoup de thèmes qui se propose à nous. Il y a le fameux, la fameuse séparation de Galan et LeBron. On en a beaucoup parlé. Alors ça, c'est assez hallucinant, Laura. C'était les numéros 1 mondiaux. Ils ont joué pendant, ils ont partagé la piste pendant 4 ans. Ils se séparent. Galan va se marier, en tout cas s'associer avec Chingoto et LeBron avec Paquito. Toi, justement, qui es consultant de Canal, ça bouge. Comment tu analyses justement ça? C'est que vraiment, ils pouvaient plus s'encadrer quand même, parce que c'était quand même presque la meilleure paire. Parce que parfois, on se sépare, on se dit, bah attends, on se sépare, on joue moyennement, les résultats sont pas là. Mais là, non, les résultats étaient là et les gars se séparent.
Disons que je pense que les résultats, c'est ce qui les a fait tenir si longtemps jusqu'à imploser là dernièrement. Hein. Finalement, c'est quand même deux caractères hyper distincts. Je suis pas sûre qu'ils fassent un match parfait sur le papier, parce qu'ils sont... Ils sont très différents en termes de jeu. Ils se complètent quand même super bien sur le terrain. Ça marche super bien. Mais LeBron, il est pas facile à vivre. On le sait. Il a du mal à le cacher. En plus, on entend les bancs, hein, maintenant. Donc, malheureusement, on voit tout ce qui se passe aussi dans l'intimité du coaching. Je pense que Galan, il a beaucoup pris sur lui et aussi dans son intérêt propre, hein, c'est-à-dire jouer avec un des meilleurs joueurs au monde et puis performer ensemble. Je pense qu'il a eu un ras-le-bol là. Je pense que c'était l'action de trop. Lors du dernier tournoi, un mauvais comportement, il a failli en venir aux mains avec le coach adverse. Je pense qu'il s'est dit, là, j'en ai marre que mon image aussi soit salie. Parce que je pense qu'aussi l'image de Galan petit à petit venait être salie, et je pense que ça lui plaît pas énormément. Du coup, je pense que le plan qu'il avait en tête pour normalement la pré-saison, là, il devait déjà se séparer de LeBron, hein, et aller jouer avec Chingoto, mais il a dit, bon, allez, au Master, c'était pas si mal, on va faire encore un dernier effort. Là, il a dit, ok, c'est bon, t'as utilisé ta dernière cartouche, je te quitte. Donc c'est cool, parce que c'est les feux de l'amour et c'est ça qui rend le truc si excitant. Mais en même temps, en termes de lisibilité, nous qui devons vulgariser pour le public, on avait fait tout un sujet changement de paire, tremblement de paire, on avait dit ça. Faut faire ça toutes les semaines, c'est un tremblement de paire toutes les semaines finalement.
Effectivement, c'est ça toutes les semaines. Alexia, justement, est-ce que c'est pas mal aussi pour nous en tant que fans de padel de les voir se séparer et justement voir en plus quand ils vont s'affronter quelque part, comme le disait Laura, ce sont les feux de l'amour. Et du coup, pour les prochains épisodes, les prochains matchs, justement, on va regarder ça avec pas mal d'attention. Quel regard justement tu portes sur cette séparation, tout simplement, parce que LeBron, n'oublions pas, s'associe à Paquito, ils ont déjà joué ensemble. On peut pas dire non plus que c'était hyper calme sur la piste.
Non, tout à fait. Moi, je suis contente. Je trouve que c'est bien aussi pour le spectacle. J'adore en plus Chingoto, c'est un de mes joueurs préférés. Donc, je suis ravie de voir cette association. Et puis, j'ai hâte de voir Galan et LeBron s'affronter avec ces nouvelles paires. Ça nous promet, à mon avis, quelque chose d'assez chaud bouillant.
Et pour terminer, pour ce sujet de Top News, l'association Laura Bella et Théo, Bella normalement va repartir à droite quand on connaît cette carrière pendant toutes ces années où il a performé à gauche. Il a eu une petite expérience de 3 ans seulement à droite, notamment c'était avec Tapia, c'était un peu mitigé, pas forcément sa meilleure période. Avec sa carrière, c'est l'idole de tout le monde, on a envie qu'il termine sur quelque chose de canon. Comment tu vois justement peut-être cette dernière année et qui plus est à droite?
Oui, je pense que c'est totalement un choix par défaut, hein. Là, il est un peu forcé. En effet, il a envie de finir et de marquer la dernière année. Vraiment, quand on lui demande, lui, son objectif pour cette dernière année, c'est de rentrer dans le master final. Pour l'instant, ça semble un peu compromis. Le problème, c'est qu'il sentait qu'avec Capra, là, les premiers résultats, c'était pas fameux. Pourtant, tous ses meilleurs résultats de sa vie, c'était avec un gaucher, en jouant à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, lui à gauche, avec un droitier, malheureusement, son coéquipier, s'il est fort, va prendre le frigo de l'espace et ils vont tout jouer sur Bella. Donc, je pense qu'il se dit aussi que c'est un choix peut-être un peu plus raisonnable que de faire briller un Théo qui prend énormément de place, un Théo qui a été habitué à jouer pendant des années avec Chingoto, qui a pas l'envergure du siècle quand même. Donc Théo, il a l'habitude de prendre beaucoup de terrain, pour en laisser un peu moins un Belasteguin qui, du coup, je pense, fait un peu un choix de raison peut-être pour cette dernière année, et pour essayer, voilà, de finir avec une année qu'il mérite quand même, je trouve, assez brillante au vu de sa carrière.
Effectivement, terminer sur une bonne note, que c'est important, surtout pour des athlètes comme ça, avec des carrières juste exceptionnelles. Allez, c'est le moment de passer à la piste à fédé.
La piste à fédé. La piste à fédé.
À la piste à fédé, ça y est, les capitaines des équipes de France de padel pour l'année 2024 ont été nommés bah, chez les seniors, donc Pablo et Mal pour les garçons, Robin Ziza pour les filles. Et là, on va vraiment se faire un focus sur les jeunes. Et Laura, tu vas être associée, tu as été nommée avec Géraldine Sorel pour les équipes de France féminines jeunes chez les garçons. C'est Yann Oradou, notre prof d'ailleurs, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans le podcast, et Yannick Morel. Alexia, quand vous avez eu cette réflexion avec toute l'équipe, qu'est-ce qui t'a plu dans le profil de Laura? Pourquoi vous l'avez contactée?
Écoute, quand Benjamin Tison est arrivé dans son rôle de responsable du haut niveau, je lui ai fait part de ma volonté de mettre un nouveau capitaine aux côtés de Géraldine Sorel. Et tout naturellement, j'avais vraiment envie d'une fille à ses côtés. Benjamin était complètement d'accord avec moi. Donc c'est vrai que le nom de Laura est vite arrivé par son vécu, par son expérience, tout ce qu'on a pu dire auparavant toutes les trois. Et puis son envie, je crois, son envie de transmettre. Alors elle va sans doute nous en dire un petit peu plus, mais voilà, à partir de là, je trouvais que c'était un super binôme à faire avec Géraldine. Les filles vont avoir beaucoup de chance d'avoir ces deux coachs, ces deux capitaines à leur côté. Donc je suis ravie vraiment que Laura ait accepté de nous rejoindre.
C'est vrai que c'est chouette quand tu dis elles vont se partager. Comment ça va se passer en termes d'organisation?
Bon, elles vont s'organiser un petit peu toutes les deux, comme elles le ressentent, mais Géraldine était toujours sur la chaise en train de coacher. Donc là, je pense qu'elles vont aussi se partager cette tâche. Et puis, c'est génial aussi parce que dans une semaine, nous avons un rassemblement national U18-U16 où Laura pourra être présente. Donc, ça va être une première pour Laura de faire connaissance un petit peu avec toutes les jeunes filles. Elle en connaît déjà quand même trois ou quatre. Mais voilà, c'est parti, quoi. Le nouveau challenge est lancé.
Eh ouais, c'est lancé. Laura, quand la Fédé t'a proposé justement ce poste, est-ce que déjà tu l'avais dans un petit coin de ta tête?
Non, j'avoue que j'y avais pas trop pensé. Enfin, j'avais échangé un peu avec Géraldine un jour sur son expérience. Elle m'avait dit elle-même, oh, je te verrais bien aussi faire ça. Et c'est vrai que du coup, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille à ce moment-là. Mais moi, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai reçu l'appel de Canal, j'y avais jamais réfléchi. Quand j'ai reçu l'appel de la FFT, je pense que je me projette pas trop parce que je me dis, en gros, si on a besoin de moi, je saurais réagir en fonction. Mais c'est vrai que quand j'en ai parlé avec Géraldine, je me suis dit, franchement, en fait, j'aimerais trop. Ça me ferait vraiment kiffer de faire ça. Pour toutes les raisons, déjà, en effet, la transmission aujourd'hui, je me dirige vraiment, vraiment là-dedans dans toutes mes activités. Le faire auprès des jeunes, je trouve que c'est si important. C'est tellement eux qui vont faire le paddle de demain. Si on peut s'y prendre plus tôt, c'est génial sur le terrain, mais aussi en dehors, quand on sait à quel point la gestion des émotions, il y a beaucoup de choses à côté de ça. En tout cas, je sais pas, le challenge m'a plu directement. Je sais que ce sera pas évident. J'idéalise pas non plus la chose. Je sais qu'il va falloir faire des choix. Il y aura des déceptions. Il va falloir, tenir des discours, essayer de les challenger aussi pour qu'elles aillent toujours plus loin. Mais vraiment, pour le coup, je suis hyper excitée par ce challenge.
C'est vrai que le challenge est beau. Alexia, t'es responsable de la formation des jeunes. C'est une très, très grosse responsabilité. Ça fait maintenant quelques temps que tu as ce poste. Comment est-ce que justement tu vois l'évolution? Là, il y a de plus en plus de tournois, ça structure de plus en plus. Est-ce que tu vois déjà un premier impact en termes de niveau et peut-être en termes de nombre, en termes de densité chez les filles?
Alors, surtout, je ne parlerai pas obligatoirement que des filles, puisque je suis aussi sur les garçons. Mais depuis maintenant 2 ans et demi à peu près que j'ai pris le poste, ce qui est super intéressant, c'est évidemment on voit plus de garçons se mettre au paddle, on a un peu plus de difficultés avec les filles, mais surtout ce qu'on voit beaucoup, c'est des projets se dessiner, des garçons qui commencent à se professionnaliser, à faire... on était partis, en fait, on faisait un petit peu le tour de la situation. Et puis nos meilleurs, on leur demandait combien de fois vous vous entraînez par semaine. Et ils nous répondaient 1 ou 2 fois. Donc on était assez étonnés de ces réponses. Et finalement, aujourd'hui, on voit toute notre élite, entre guillemets, s'entraîne vraiment 4 à 5 fois par semaine, plus de l'entraînement physique, plus une mise en place aussi de préparation mentale. Donc tout ça est en train de se structurer et c'est top. Voilà, on a encore du chemin, on a encore beaucoup de boulot pour que les jeunes filles se mettent au padel, mais je suis optimiste parce que les générations 2012-2013, c'est en train de bien prendre.
Surtout que quand on se balade, je regarde, alors c'est un lien quand même avec les équipes de France, et quand je te parlais de masse et de densité, quand on se balade dans les clubs, il y a de plus en plus déjà 1-2 clubs qui poussent, qui fleurissent. Donc forcément, plus de pistes, forcément bah, plus de monde et plus de bah, la découverte du paddle. Donc on peut imaginer et donc de plus en plus d'actions. Donc ça, c'est hyper important. Au niveau de la structuration, on a vu que ce week-end, il y avait notamment les championnats régionaux des clubs. Bah, tout ça fait qu'on peut imaginer qu'il y aura une grosse densité dans quelques années. Laura, sur ces, on va dire, sur ces 10 dernières années, toi qui as commencé le paddle, quelle évolution tu trouves qui est la plus significative par rapport à, entre guillemets, à tes débuts et maintenant ?
Alors déjà, chez les jeunes, moi je suis ravie que maintenant, quand on dise à l'école c'est quoi ton sport, ben certains répondent le paddle, quoi. Enfin, c'est ça qui est super, et pour moi la grande... voilà, moi j'ai tous mes neveux et nièces, sache-le Alexia, hein, ils sont tous au paddle, donc j'espère qu'on...
J'adore.
On va pouvoir.
Si tu fais une promo interne.
Fabuleux. Écoute, c'est déjà ça. Non mais je me rends compte à l'échelle de mon club qu'il y a vraiment une école de paddle avec de plus en plus de jeunes, de plus en plus jeunes, ces jeunes-là. Donc ça, on va dire que déjà c'est une grande évolution qui nous concerne directement. Et après, en général, enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le paddle en 2014, il n'y avait même pas de championnat de France. Enfin, tout s'est structuré après ça. J'ai vu une évolution. C'est-à-dire que moi, je me rappelle en 2014, je vais sur internet, j'avais super envie de faire des tournois. Tu vois, Émilie, ça m'a fait un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai commencé et j'ai eu envie de faire les tournois. Et du coup, je vais sur Internet et là, je cherche et je ne trouve aucun tournoi dans les 2 prochains mois pour les femmes. Et je me dis, oh là là, quelle catastrophe. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse un choix sur un week-end, si on va faire un tournoi, entre faire un FIP, un P1000, un P500. Il y a tous les types de tournois sur tous les week-ends. Et je pense que ça, c'est une des principales améliorations que j'ai vues dans les 10 dernières années.
Alexia, quels vont être les objectifs ? Alors, c'est un peu vague, un peu bateau comme question, mais là, sur 2024, qu'est-ce qu'on peut imaginer, justement, pour les équipes de France jeunes ?
Écoute, alors, c'est vrai que c'est super difficile à répondre, parce que le tirage au sort est d'une importance capitale pour les championnats d'Europe. Mais voilà, si on arrive à passer entre quelques mailles très compliquées, on peut viser une troisième, une quatrième place. On l'a vu pendant les mondiaux. Voilà, on a eu des tirages au sort assez bons chez les filles, notamment. Et on n'était pas loin de pouvoir jouer la troisième place. Il faut comprendre qu'il y a des pays vraiment incontournables. On les connaît, hein, l'Espagne, l'Argentine et d'autres. Mais derrière, il y en a beaucoup qui sont comme nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut tirer quand même notre épingle du jeu.
Laura, quels sont les messages que tu vas donner, les messages, on va dire, si on en retient un ou deux principaux, justement, auprès des jeunes ?
Les messages que je vais leur faire passer. Déjà, je vais aussi finalement m'intéresser à leur projet personnel, individuel. Hein, finalement, l'un va pas sans l'autre. Je pense que ça va être aussi savoir comment leur problématique actuelle, c'est un peu comment gérer le côté un peu scolaire, puis le côté paddle. J'aimerais peut-être leur donner quelques conseils, moi qui l'ai vécu un peu plus tardivement, mais voilà, essayer de faire les bons choix au bon moment pour finalement ne faire d'impasse sur aucun des deux. Parce que c'est le cas en Espagne, l'avantage que j'ai, c'est que moi je les ai vues, les jeunes filles en Espagne, les choix qu'elles font, comment elles en arrivent à ce niveau-là, le niveau qu'elles arrivent à atteindre, et essayer, voilà, ce que j'ai vu en Espagne, de le reproduire petit à petit en France, des conseils personnels sur la gestion et la répartition de leur vie. Et après, essayer de leur faire voir le paddle d'un aspect un peu plus tactique. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, on va les voir sur des rassemblements, sur des tournois. Je vais pas pouvoir changer tout leur jeu, mais leur faire voir le paddle d'une façon un peu différente. Et notamment, moi, ce qui me plaît, c'est le banc. J'aime cette action-là, c'est-à-dire sur le banc, arriver à analyser tactiquement comment jouer, mais surtout leur apprendre elles-mêmes à analyser. C'est-à-dire, je serai pas toujours là non plus, mais qu'elles sachent, elle est meilleure quand elle joue le coup droit avec la vitre. Lui, essayer d'analyser les adversaires avec nos forces et de pouvoir elle-même être capable petit à petit d'en sortir une tactique et pas de jouer un coup l'un après l'autre sans aucun sens.
En gros, qu'il y ait une forme d'autonomie ensuite après que ces rassemblements aient eu lieu.
Exactement.
Ou ces compétitions. En tout cas, le discours est beau, le discours est hyper intéressant et déjà très enrichissant. J'ai hâte de voir justement comment ça va performer tout simplement sur la piste. Maintenant, on va essayer de performer, en tout cas de progresser, surtout moi, c'est le moment du prof.
Le prof.
Allez, c'est le moment dans le podcast où on apprend à performer et c'est avec le prof Yann Oradou. Salut Yann.
Salut Émilie, bonjour à tous.
Bon, comment ça va ? T'as repris la compète là ? C'est bon, t'es en forme ? Tu gagnes ?
J'ai repris la compète. Écoute, je viens de perdre en finale d'un P1000, mais je suis plutôt content de moi. Je joue à droite, à gauche. partout.
Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment faire une chiquita. C'est beau ce nom, c'est quoi une chiquita, Yann ?
Eh ben, c'est beau ce nom, comme son nom l'indique, c'est une petite balle qu'on va jouer quand on est au fond de piste pour essayer de reprendre le filet, qu'on va jouer dans les pieds des deux adversaires qui sont au filet. Donc l'objectif n'est pas de faire le coup gagnant grâce à ce coup-là, mais c'est plutôt de récupérer le filet et de gagner le point dans un deuxième temps. Attention, il faut vraiment la faire quand on peut la faire. C'est vraiment un coup de toucher, hein. On vient essayer de recouvrir un petit peu la balle, un petit peu de caresser la balle pour que la balle redescende vraiment dans les pieds des adversaires, pour leur faire voler une balle basse sous le niveau du filet et avoir du temps pour monter, pour ensuite faire une volée de finition.
La chiquita, elle se joue, j'imagine, souvent aussi après la vitre. Et quelle zone on touche ?
Alors, la zone privilégiée, c'est au milieu ou en parallèle. Alors, ça ne veut pas dire que le croisé court ou le décroisé court n'existe pas, mais il faut avoir l'angle pour pouvoir le faire, il faut avoir le temps pour pouvoir le faire. Et souvent, si on la fait mal, on crée un déséquilibre dans l'équipe, parce que forcément, le volleyeur peut anticiper, peut venir couper la trajectoire, et souvent, on met notre équipe un petit peu en difficulté.
C'est quoi la faire mal exactement ? C'est que tu joues pas la bonne zone ? Ou aussi c'est parce que tu la touches pas bien ?
On la touche mal, on la joue pas forcément en avançant, elle monte un petit peu trop. Donc forcément les volleyeurs ne volaient plus sous le niveau du filet mais plutôt au-dessus. Et dans ce cas-là, vaut mieux pas monter, vaut mieux rester derrière.
Est-ce que c'est un coup qu'on utilise aussi quand on joue des adversaires qui se matchent aussi hyper bien ? Est-ce que c'est pas un coup aussi où on peut en abuser, justement passer vers le bas pour éviter justement de se prendre un smash et de défendre un smash ?
Ouais, c'est important si vous jouez deux gros smashers de fixer un peu plus en bas, de pas vous précipiter à lobé. Donc la chiquita va permettre aussi de fixer en bas et d'avoir du coup un petit peu plus d'espace derrière eux. Parce que forcément, si on fait une chiquita et qu'on en abuse, bah, les volleyeurs vont avoir tendance à un peu plus coller le filet pour plus prendre la chiquita et du coup, ça laisse de l'espace libre derrière eux.
On est d'accord qu'après la chiquita, on enchaîne au filet, on reste pas au fond.
Ouais, c'est quand même conseillé de venir au filet, après une chiquita pour avoir une volée facile à jouer. Et vaut mieux monter en équipe à deux.
Qui a le meilleur toucher sur le circuit, la meilleure chiquita, la meilleure main ? Il faut une bonne main.
Ouais, bon après, des Tapia, je t'apprends rien. Hein. Tapia, c'est le Messi, hein. Il a une main de dingue, donc il la fait bien. Mais surtout, pour la faire, il faut aussi avoir beaucoup d'explosivité vers l'avant. Si on n'est pas explosif vers l'avant, déconseille quand même la chiquita, parce que faire une chiquita et rester derrière, je vois pas trop l'intérêt.
Parce que quand tu dis explosif vers l'avant, c'est-à-dire que tu fais la chiquita et en fait, il faut aller très très vite au filet, parce que tu as quand même un petit peu de chemin
ouais,
à parcourir.
Exactement, c'est pour ça que la chiquita, elle doit se faire quand on est proche de la ligne des carrés de service. Il ne faut pas qu'on la fasse quand on est collé à la vitre. Il faut quand même qu'on gagne un petit peu de distance par rapport au filet et il faut la faire déjà en avançant, comme ça on gagne du temps.
Bah merci beaucoup Yann, on se retrouve le mois prochain, merci pour tout.
Merci Émilie, merci à tous.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Session Padel. Laura, elle était comment ta chiquita ? Est-ce que tu avais un bon toucher ? Tout à l'heure en intro, tu nous as dit que tu n'avais pas énormément de toucher, une bonne main. Moi, je trouvais qu'elle était pas mal, en tout cas sur la piste.
Écoute, la chiquita, moi j'ai eu deux profs différents pendant mon aventure en Espagne. J'avais un prof qui était vraiment très obsédé par le lob, donc il m'avait énormément fait travailler la prise du filet par le lob. Et puis ma deuxième coach, elle qui était vraiment sur aller au contact, c'est-à-dire faire la chiquita et monter au filet.
Ça nous plaît avec Émilie.
Voilà.
Ça, ouais. La chiquita et venir au filet, ça nous plaît, ça.
Ça, c'est vous, ça. J'ai un souvenir d'une petite chiquita Alexia à Rouen, incroyable. Mais c'est vrai que c'est arrivé à combiner les deux, c'est-à-dire que la chiquita toute seule, elle sert à rien, le lob tout seul, que le lob ne sert à rien. C'est arrivé à trouver la bonne balle pour faire l'un et l'autre. Je sais pas là où je suis la plus forte, très honnêtement, mais je sais tout l'intérêt de ce coup.
Eh, franchement, Alexia, ta chiquita, là, ton espèce de slice.
Tu l'as vu ?
Bah, mais non, mais je le connais par cœur parce que j'ai joué en double tennis avec Alexia. Son slice à deux mains, là, il fait une espèce de chiquita de slice à deux mains, c'est fantastique.
Vous dites ça, les filles, mais qui a gagné Rouen ? C'est Laura Clergue et Émilie Lois. C'est pas Alexia de Chaume.
Parce qu'on t'a pas joué.
C'était un super tournoi. On s'est régalé quand même à Rouen.
Ouais, d'ailleurs, petite mention spéciale aux organisateurs, hein, notamment. Et franchement, l'accueil quand on se balade dans les clubs, c'est juste fabuleux. Merci en tout cas à tous de nous recevoir de cette manière. C'est hyper plaisant. Et ben d'ailleurs, quand on parle de club, et ben dans un club, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a la troisième mi-temps.
La troisième mi-temps.
Allez, troisième mi-temps. Petite question. Première question.
Salut, c'est Christophe. Est-ce que tu as une anecdote sympa à nous raconter ?
Ah, alors, je me souviens d'un match qu'on avait fait, je crois qu'un match où on jouait contre l'Argentine dans un mondial. Alors, je crois qu'on était au Portugal, il me semble. Je jouais avec ma coéquipière de l'époque, Audrey Casanova, avec qui j'ai commencé le paddle. Et je me souviens qu'on jouait contre l'Argentine. Du coup, Sanio Gutiérrez et Fernando Velasteguin sont venus voir notre match. On était totalement tétanisés. Déjà qu'on se prenait une raclée, on savait plus mettre deux balles dans le terrain. Je dirais que ça, c'est ces moments-là d'échange qui, moi, m'ont marqué, cette proximité avec ces joueurs-là, qui sont toujours d'ailleurs, qui m'ouvrent d'ailleurs toujours les portes, hein, pour les interviewer et tout ça. C'est vrai qu'on a créé un lien spécial. D'avoir été la première française, j'ai reçu un accueil, franchement, hyper chaleureux en Espagne et sur le circuit en général. Et je pense que tous ces moments d'échange avec aujourd'hui ces grands champions qui sont quasiment inaccessibles, moi j'en garde un souvenir incroyable.
Tu dis inaccessible, mais t'arrives quand même à les avoir en one-to-one pour les interviews. Hein. Et ça, franchement, ça a fait rêver. Deuxième question.
Salut, c'est Mathias. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job de consultante sur Canal?
Ce que j'aime le plus, c'est arriver à décrypter une tactique et à la vulgariser pour essayer de transmettre aux téléspectateurs. Essayer d'arriver à isoler sur un point l'enchaînement pour essayer de le transmettre pour que les téléspectateurs puissent potentiellement le mettre en application derrière.
Tiens, une question pour toutes les deux. On va commencer avec toi, Alexia.
Bonjour, c'est Guillaume. Si tu devais choisir un coup d'un joueur ou d'une joueuse sur le circuit, lequel prendrais-tu? Merci.
La défense. La défense, le jeu... Ah, ça te fait rire, hein. Le jeu avec les vitres. La défense, le jeu avec les vitres. Mais bon, ça vient. Venant du tennis, hein, on a cette facilité, je dirais, un peu de bien bloquer. Mais c'est vrai qu'on a cette difficulté de gagner du temps en laissant passer et jouer avec les vitres.
Et toi, Laura, un nom, une qualité? Vas-y.
Ah, moi, j'ai deux réponses. Soit le revers à deux mains d'Émilie Loi. soit le smash par trois, le smash claqué de Bea González.
Ah, c'est pas mal.
Ah ouais, j'adore.
Ah, et moi aussi.
Ah ouais, c'est pas mal.
Session Padel.
Les filles, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter là pour ces prochaines semaines, Alexia?
Eh ben, écoute, on va dans la continuité hein, du capitanat des équipes de France, un super rassemblement national où Laura va être bien sûr présente avec nous. Et je suis certaine que ça va donner une nouvelle dynamique à tous ces jeunes et une richesse d'avoir Laura et Géraldine à leur côté.
Laura?
Ben, c'est ça aussi, je dirais. Là, j'avoue que du coup, la prochaine étape, c'est en effet ce travail avec les jeunes. Donc, un bel accueil auprès d'eux, qu'ils m'intègrent bien à l'équipe, même si j'arrive un peu plus tardivement. Et puis, un bel accueil aussi avec toute l'équipe de la Fédé. Mais ça, j'ai pas trop de doutes sur ce sujet.
Non, à mon avis, ça va bien se passer. Franchement, c'est une équipe qui est top. En plus, il y a le travail, le professionnalisme et il y a la bonne humeur. Franchement, c'est hyper sympa. En tout cas, mesdames, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour ces prochaines semaines. Beaucoup de tournois gagnés à mes côtés, Laura. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir que de présenter Session Padel. On se retrouve dans un mois et comme je le dis à chaque fois, bah le padel, vous savez quoi, ça se consomme sans modération. Allez, je vous dis à dans un mois. Allez, ciao, ciao.
Session Padel. Session Padel.